OK, on va aller dans Apocalypse au chapitre 17, les versets 7 à 14. Apocalypse chapitre 17, versets 7 à 14. Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Excusez. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Amen.
Amen. Oui. Très belle. Je dois vous dire que j'aime l'Apocalypse plus que jamais de toute ma vie. J'ai fort probablement parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps que j'avais passé dans toute ma vie. Tu l'as lu, relu à maintes et maintes reprises. Mais lire un livre et étudier un livre, c'est deux choses complètement différentes. Si on fait juste lire un livre et qu'on ne l'étudie jamais, à quelque part, on reste en surface. C'est quand on l'étudie qu'on va chercher la signification des passages. Quand on lit un passage comme ça, là, si vous n'avez pas de difficulté, là, ben, vous êtes bien meilleur que moi, parce que moi, j'en ai plein de difficultés. Le livre est plein de difficultés. Le passage, il y a juste sept versets, puis il est très difficile. Alors, si on n'étudie pas, et une bonne façon d'étudier, c'est justement d'aller chercher des bons commentaires. Bien sûr, il y a la prière, puis il y a l'étude des mots grecs, et tout ça, là, c'est tout va ensemble. Mais des bons commentaires, c'est parce qu'il y a des esprits que moi je considère qu'ils me sont beaucoup supérieurs, qui ont étudié les mêmes passages dans le passé. Puis si tu choisis des bons auteurs, parce que l'Apocalypse, s'il y a un livre qu'on a écrit des bêtises sur ce livre-là, c'est bien celui-là. On a écrit beaucoup de bêtises sur ce livre-là. Mais d'un autre côté, si tu sais choisir tes auteurs, tu vas être béni par toutes les découvertes que tu vas faire. Et autant de fois que j'ai lu la Bible, le passage ici est difficile. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'allume sur la signification. Je vais vous partager ce que moi j'ai découvert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre à découvrir, là. Mais ce que j'ai découvert, ça m'a... J'ai dit, waouh, j'ai compris. À cause de l'auteur que j'utilise, il m'a fait voir les choses. Et je vous l'explique dans les notes que je vous ai laissées. Et un tableau, là, ça m'a pris beaucoup de temps de faire. Parce qu'il faut que tu ailles chercher tes affaires, tu mettes ça ensemble. Puis moi, on peut essayer d'expliquer avec des mots, des fois. Juste trouver ce qu'on trouve dans un commentaire, un l'autre, puis essayer de... Mais moi, il n'y a rien comme un tableau pour m'allumer. Parce que le tableau, il t'aide à saisir qu'est-ce que le texte dit, mais de le résumer en peu de mots, en réalité, peu de mots. En tout cas, vous regarderez ça en détail. Je ne sais pas si on va se rendre jusque-là aujourd'hui. En tout cas, je m'attends pense que ça va prendre 2 semaines à le faire aujourd'hui. Là. Imaginez-vous 7 versets. Et je vous dis que ce passage-là, quelqu'un pourra faire beaucoup de sermons là-dessus. Très facilement, 8, 10. C'est riche, 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 riche. Et là, qu'est-ce qu'on fait, là, ce qu'on est en train de faire, notre étude sur l'Apocalypse? On est en train d'étudier un premier niveau. Mais c'est pas à cause que tu étudies l'Apocalypse. Ah, ben là, ça, je la comprends, l'Apocalypse. Rattelle-toi une autre fois, tu vas voir que... Et les Écritures sont d'une richesse incroyable. Et ce qui nous aide à la comprendre, moi, ce que je me rends compte de plus en plus, en vieillissant dans la foi, et avec l'expérience qu'on prend de lire des choses qui concernent la Bible, c'est que la Bible s'explique par elle-même. Ça, c'est un principe qui est reconnu en les gens qui veulent expliquer l'herméneutique, là, la science de l'interprétation des Écritures. La dernière parole, là, pour dire, je ne sais pas si notre d'entre vous connaissait Arthur Pink. La dernière parole que Arthur Pink a dit avant de mourir, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Pourquoi? C'est que... Tout est là dans les Écritures, quand on parle de montagne, on parle de roi, on parle de Babel, Babylone, on parle de plein de choses. Mais à quelque part, ce qu'on oublie souvent, c'est que les Écritures n'ont pas commencé à parler de ça là. Plus on connaît notre Bible, plus l'interprétation de quelques passages que ce soit devient plus, pas facile, mais devient plus abordable, plus... Moi, c'est vraiment la conviction que j'ai que plus on connaît les Écritures, plus on va être capable d'interpréter un livre correctement. Alors, aujourd'hui, j'ai simplement intitulé le message qu'on va regarder, le mystère de la femme et de la bête. Pourquoi j'appelle ça le mystère? C'est parce que je veux vous mystifier, non? J'appelle ça le mystère parce que la Bible elle-même dit que c'est un mystère. Et on va voir tantôt qu'un mystère, nous, on est souvent porté à voir un mystère comme quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est pas le sens des Écritures. Le sens du mot mystère dans les Écritures ne veut pas dire cela. Il veut tout simplement dire quelque chose qui n'a pas été dévoilé et que le Seigneur dévoile et qui nous fait comprendre pour l'époque où on est rendu. Et ça, c'est très important de saisir ça. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, le mystère de la bête, de la femme et de la bête. Le mystère, le verset 7 parle de l'élucider. Il dit, je te dirai le mystère. Parce que Jean, si vous vous souvenez de son état, au dernier passage qu'on a étudié, il était stupéfait. Il voyait quelque chose, puis il est arrivé au point où il était profondément troublé. Et il ne comprenait plus rien. Et l'ange, c'est là qu'on voit la bonté et la miséricorde de Dieu, l'ange lui dit, je vais te montrer le mystère, je vais te l'expliquer. Alors le mystère est élucidé, verset 7, le mystère est expliqué, verset 8 à 12, on va voir que dans le fond, là, il développe l'idée de l'explication. Et dans le verset 13 et 14, on va voir que le mystère a échoué, parce qu'on va comprendre c'est quoi le mystère. Puis on va comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire, puis on va comprendre que Dieu est en train de nous dire que j'ai vu à l'échec avant même de commencer. Alors, les versets 5 et 6 de notre sermon précédent se terminaient comme suit. On relit le passage, ça nous fait une façon de rattacher ce qu'on étudiait la semaine dernière avec ce qu'on voit cette semaine. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Et sur son front était écrit un nom, mystère. Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. La stupeur, ça veut dire que t'es comme figé au point que tu comprends plus rien. C'est ça la stupeur. Il était saisi d'une grande stupeur. Alors, l'apôtre Jean éprouve un grand choc à la révélation de ce que le Seigneur est en train de lui montrer par le moyen des anges. Il est stupéfait, c'est-à-dire dans un état d'étonnement profond. Il est étonné parce que qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il va être en train de... C'est le religieux qui domine le politique. Il ne comprend pas. Le religieux, pour lui, ce serait supposé être les gens qui connaissent le Seigneur, qui obéissent au Seigneur, qui vivent des vies saintes. Et il se rend compte que c'est le religieux qui est rendu apostat, qui est rendu pourri, autrement dit, qui est en train de dominer le côté politique. C'était très, je comprends qu'il était stupéfait. Alors, on définit, si vous prenez un dictionnaire, vous allez chercher le mot « stupeur ». La stupeur, c'est un état de choc psychologique d'étonnement, au point d'amener un individu à une incapacité presque totale à agir ou à penser. Comme quelqu'un, des fois, je sais pas, j'avais déjà entendu parler des gens qui ont eu des gros accidents, là. Ils sortent de leur char, ils sont comme figés, ils sont comme non pour un bout de temps avant. Mais c'est ça, la stupeur. Fait qu'il n'était pas dans un état ordinaire, l'apôtre Jean. Donc, capacité presque totale à agir ou à penser, à être sans réaction et dans une insensibilité profonde. Autrement dit, quand vous êtes dans cet état-là, vous ne comprenez plus rien, vous perdez presque le contact avec votre entourage. Jean a donc un urgent besoin qu'on lui explique ce qu'il voit, et ce qui semble à ses yeux incompréhensible et très difficilement réconciliable. Alors, la femme qui voit, il comprend que c'est le religieux, mais le religieux prostitué, c'est le religieux qui est tombé dans l'idolâtrie, le religieux qui est tombé dans la désobéissance, qui est rendu dans le mal et qui même contribue à faire avancer la cause du gouvernement mondial. Quelque part, il y a de quoi ici, là. Imaginez-vous, il est au premier siècle, là. Il est en 95, à peu près, dans l'entour. Là, il est en train d'y montrer toute l'histoire des hommes jusqu'à la fin. Ça devait être tout un trip qu'il a fait connaître à Jean. Hein. Ça devait être un trip. Ça devait être quelque chose. Hey! Alors, le chapitre 17, il comprend de grandes difficultés. On avait regardé un petit peu la semaine dernière, on va continuer cette semaine. La première difficulté du passage est d'harmoniser les deux idées concernant Babylone, c'est-à-dire qu'elle est à la fois une cité et une femme. Là, le texte dit que c'est à la fois une cité, le texte dit que c'est une femme aussi. Fait que si ça ne vous pose pas un problème dans votre tête... C'est pour ça qu'il dit que c'est une des difficultés. Alors, il faut, quelque part, s'adresser à la difficulté et d'essayer de comprendre pourquoi le Seigneur utilise l'image de la femme et l'image de la bête pour parler de ce qu'il est en train de révéler à Jean. Et la deuxième difficulté, il y a une deuxième difficulté, c'est celle d'expliquer le mystère de Babylone la Grande. Alors, c'est ce qu'on va essayer de développer dans notre leçon d'aujourd'hui. On va regarder la première difficulté et on va chercher à harmoniser les deux idées, que Babylone est à la fois une femme et qu'elle est aussi une cité. On va prendre la première idée, elle est une femme. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous parlent, l'Ancien Testament nous parle du peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, puis l'époux, c'est Yahvé, c'est Jéhovah, c'est Dieu de l'Ancien Testament. Autrement dit, lui, il était l'époux, et le peuple d'Israël était son épouse. Donc, il utilise l'image d'une femme, de la relation du mariage, pour parler du peuple de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, l'épouse de Yahweh, on peut trouver l'idée dans Osée, chapitre 2, versets 16 à 19. Et aussi, le Nouveau Testament nous parle de l'Église comme étant l'épouse du Seigneur. On est l'époux, l'ensemble de l'Église, de toutes les Églises qu'il y a eu de toutes les époques, à partir du parce que Jésus est venu même avant, parce que l'Église de l'Ancien Testament, l'Église du Nouveau Testament, c'est l'épouse du Christ. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, on nous parle de Jésus-Christ comme étant l'époux, et nous autres, le peuple de Dieu, le Christ, c'est l'époux, et nous, on est l'épouse. Alors, normalement, dans un mariage chrétien, une épouse se devrait d'être fidèle à son mari pour honorer ses vœux qu'elle a fait devant Dieu et aussi pour honorer l'alliance, parce que le mariage, c'est souvent une alliance. Pourquoi on utilise l'image de l'alliance? C'est pas juste l'image d'une bague, là. C'est toute l'idée de l'alliance entre Dieu et son peuple qui est en arrière de ce petit symbole-là. Alors, quand on regarde la femme qu'on a étudiée la semaine dernière, ça nous parle de la chrétienté apostate. Autrement dit, l'aspect religieux, la prostituée qui est assise sur la bête, c'est l'aspect religieux. Mais le religieux apostat, ça veut dire le religieux qui porte encore le nom de Jésus-Christ, mais qui s'en est éloigné d'une façon magistrale, qui ont abandonné la vérité sur Christ, qui ont abandonné le salut, qui disent que toutes les religions sont sur le même pied, puis toutes les religions vont te mener à Dieu. C'est ça qu'il faut saisir. Alors le passage nous parle donc de la chrétienté apostate. Elle porte encore le nom de Dieu, elle porte encore le nom de Christ, ce qui est en train de se produire actuellement, là. La grande religion mondiale qui est en train de se développer et de s'affirmer de plus en plus, et elle va s'affirmer beaucoup plus dans les années qui suivent. Croyez-moi, elle va s'affirmer beaucoup plus. Alors, elle vit dans l'idolâtrie, elle vit dans l'immoralité, elle vit dans la poursuite des richesses, elle vit dans la poursuite du pouvoir. Et Dieu la voit comme étant une prostituée. Si t'es marié, ça te tente-tu que ta femme devienne une prostituée? Je ne penserai pas. Mais elle parle encore au nom de Dieu, elle parle encore au nom de Christ, mais elle est infidèle, elle est idolâtre, et se vautre dans les péchés de toute nature, et surtout dans l'immoralité. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, si quelqu'un ne voit pas ça, là, c'est parce que quelque part, c'est gros, là. On le voit de façon très claire. Elle a forniqué et elle a pratiqué la prostitution. Elle se vautre dans les richesses injustes, pas pour rien qu'on la parle comme une reine. Elle a son vase d'or dans les mains, plein des abominations, des impuretés. Si elle se présente comme une reine, c'est parce qu'elle a de l'argent. Comment dit la grande religion mondiale qui est en train de se former? Là, l'argent, c'est pas un problème pour eux autres. Alors, elle entraîne les rois de la terre à sa suite et elle cherche à éloigner les croyants du monde, du Dieu véritable. Il y a un mouvement actuellement qu'on appelle l'écuménisme qui est en train de se former, qui veut ramener toutes les religions sous le même toit. Et on est rendu au point où on affirme que toutes ces religions-là, peu importe le nom, là, islam, bouddhisme, n'importe quoi, en dessous d'une grande jupe, et que ça serait supposément nous emmener vers Dieu. Il y a de plus en plus qui prêchent ça, là. Billy Graham, le premier, il l'a dit publiquement. Je ne parle pas à travers mon chapeau, là. Je suis capable d'aller vous sortir les choses qui ont fait ça publiquement. Alors, quand on parle qu'elle est à la fois une femme et qu'elle est à la fois une cité, quand on recule dans le livre de la Genèse, Babel, vous vous souvenez, c'est à quoi Babel? C'est à la ville que Nimrod a voulu construire et une tour. La tour, elle avait un but. On l'a vu quand on a étudié l'Apocalypse. dans ces passages-là. Ça, c'est extrêmement important de saisir ça, parce que si on ne saisit pas ça, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Babel, c'est la volonté de l'homme de vouloir demeurer ensemble, alors que Dieu avait dit « Vous vous disperserez sur toute la surface de la terre. » C'était de la rébellion. Et non seulement de la rébellion, mais la construction de la tour, c'était un lieu où l'être humain prétendait qu'il pouvait monter assez haut pour pouvoir avoir des relations avec les choses du ciel. Mais on sait à quelle chose du ciel qu'il voulait avoir. C'était un désir d'entrer en communication avec les démons. Pas plus compliqué que ça, là. Alors, autrement dit, l'idée fondamentale de Babel, c'était de désobéir à Dieu qui avait commandé de vous. À cause de leur projet, Dieu avait vu leur projet, avait dit, je vais la confusion des langues. Et il avait commandé aux hommes, vous allez vous étendre sur toute la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va arrêter ça, ce projet-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement si quelqu'un suit l'actualité de proche? On veut tout ramener les gens dans les villes. Pour mieux les contrôler. C'est assez spécial. Alors, on va relire le passage dans Genèse 11, où on nous parle de ces choses-là, parce qu'il y a des mots importants à réaliser, parce que plus on va comprendre que ce qui est en train de se passer ici, dans Genèse, plus on va comprendre tantôt quand il va parler, quand il va parler des 10 rois, puis des têtes, puis tout ça. Si on comprend ici, là, on a la base. Alors, Genèse 11, versets 1 à 9. « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva, qu'étant parti du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. » Voyez-vous, l'intention est ici mentionnée. Ils ne veulent pas obéir à Dieu qui dit « Dispersez-vous sur toute la terre. » Parce que Dieu voyait quand ils restaient ensemble, c'était quoi leur projet? Avoir des communications avec les démons. Verset 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la surface de toute la terre. L'Éternel les dispersa. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, qui signifie confusion. Quand tu es dans la désobéissance à Dieu, tu es dans la confusion. Quand tu es dans la rébellion à Dieu, tu es dans la confusion. Car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Mais pensez-vous qu'à cause que Dieu fait ça, que l'être humain a abandonné son désir de tout rassembler les hommes et de tout les ramener dans la communion avec les démons? C'est ça qu'on est en train de voir. L'aspect historique de ça, ça a parti où? Dieu a arrêté. Mais ça veut-tu dire que les hommes ont arrêté pour autant? Ils ont essayé de différentes façons, c'est ça qu'on va voir. Mais à un moment donné, il dit qu'autrement dit, il y a eu au début une unanimité chez les êtres humains pour procéder d'une certaine façon. On va se mettre tous ensemble, peu importe les langues, peu importe les nations, on va se mettre tous ensemble et on va construire ce qu'on vient de mentionner. Quand ça a pu marcher, que le Seigneur a fait tomber la confusion des langues et la dispersion. Qu'est-ce que les hommes ont essayé de faire? Après ça, il y a eu l'Égypte, Il y a eu la Syrie, il y a eu la Grèce, la Rome, et toutes les Mèdes et les Perses. L'être humain a voulu continuer avec le même projet, mais là, ils ont voulu procéder d'une autre façon. Ils ont voulu procéder par les nations. Il y a beaucoup de nations qui se sont essayées. Les Égyptiens se sont essayés. Les Grecs se sont essayés. Les Romains se sont essayés. Autrement dit, voyez-vous, il y avait l'unité globale. Ensuite, c'est tombé à les nations ont essayé de continuer le projet. Il n'y a aucune nation qui a réussi, puis il n'y a aucune nation qui réussira jamais. Quel est le projet qu'ils ont pour la fin? On va revenir comme on était au début. On va s'unir. Plus de langue. On va s'unir. C'est très intéressant de voir comment l'être humain est... Alors, quand on parle qu'elle est à la fois une femme et une cité, l'autre cité dont parlent les Saintes Écritures est la Nouvelle Jérusalem. Je pense qu'il y en a qui ont déjà lu la cité de... comment il s'appelle, celui du 4e siècle, voyons. Saint-Augustin. Saint-Augustin, autrement dit, il a voulu montrer qu'il y a eu deux cités depuis le début. Il y a eu la cité de Dieu, qui a été décidée de toute éternité, et Dieu est en train de construire son royaume sur la terre. Il développe ça dans une brique, là. Après ça, la deuxième idée, c'est que la deuxième cité, c'était la cité du malin, avec Caïn et avec Nimrod. Comment le malin a continué de vouloir établir son royaume sur la terre et développer ça pour en arriver à la grande religion mondiale, pour en arriver au gouvernement mondial. Là, on est encore dans l'idée de la cité. On va aller regarder deux passages dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Et mon nouveau nom, la Nouvelle Jérusalem. On parle de l'ensemble des croyants comme étant une cité. Voyez-vous, quand on regarde l'ensemble des Écritures, et on est loin d'avoir fait une étude exhaustive, mais si on ferait une étude exhaustive des deux sujets, la femme et les cités, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est tellement riche, là. Juste de regarder le... Après ça, Apocalypse 21, versets 2 et 3. On parle encore des croyants comme de la nouvelle Jérusalem. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Vous voyez où les deux idées ça, sont parallèles? Parce qu'on parle d'une cité, mais on parle aussi qu'elle s'est, comme une mariée, elle s'est préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, et il sera leur Dieu. » Donc, la deuxième difficulté, vient de l'interprétation, de la signification du mystère de la femme et de la bête. C'est ce qu'on va regarder dans la leçon présente. Alors, je pense que c'est assez clair pour moi qu'elle est à la fois une femme et une cité. L'harmonisation, moi, est très claire dans mon esprit, en tout cas. Et la deuxième, ça vient du mot mystère, parce qu'il dit que Babylone, la grande, mystère, à quelque part, mystère, autrement dit, quelque chose qui n'était pas nécessairement révélé avant, mais Dieu permet maintenant qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Verset 7. Et là, on voit que l'état de stupeur dans lequel Jean se trouve, Dieu ne le laisse pas comme ça. C'est là qu'on voit la bonté de notre grand Dieu. Il était complètement abasourdi, figé, terrorisé, probablement, surpris. Et voici ce que ça dit, verset 7. Le mystère est élucidé. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu stupéfait? » C'est comme quasiment, il lui refait quasiment comme un reproche. Hein. « Pourquoi t'es stupéfait? Comment voilà? C'est comme s'il aurait voulu dire, coudon, tu comprends pas? T'as pas compris encore? Il dit, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Jean est profondément troublé et confus. Alors le Seigneur ne laissera pas son serviteur dans la perplexité et dans l'agitation. L'ange va révéler à Jean le sens de la vision. Alors bien sûr, une plus grande compréhension, ça va le rassurer et ça va lui montrer la sagesse des plans de Dieu et l'assurance de la victoire finale. Ici, j'ai pris le temps d'aller fouiller un petit peu dans le dictionnaire biblique sur le mot mystère. Parce que c'est vrai que, je me souviens quand on était jeune, puis il nous disait, ah, telle affaire, là, la Trinité, c'est un mystère. Ou bien là, on nous parlait d'autres affaires, puis on disait que c'était un mystère. L'idée qui nous a resté dans la tête bien souvent, c'est celui d'une chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors que les Écritures ne parlent jamais du mot mystère avec ce sens-là. Nous parlent du sens de quelque chose qu'on n'a pas compris, mais que Dieu veut nous révéler, qui est. On va regarder ce que le dictionnaire biblique nous dit sous l'article mystère dans le dictionnaire. Alors, le mot mystère, ça dit, voici, je vous lis le passage. Dans le Nouveau Testament, ce mot exprime une action ou une dispensation de Dieu tenue secrète jusqu'à l'heure fixée. C'est pas que c'est secret, que c'est incompréhensible. C'est que ça a tenu secret jusqu'à l'heure fixée, jusqu'au moment où le Seigneur décide de faire comprendre. Ou jusqu'à ce que l'Esprit Saint ait préparé l'homme à en recevoir la communication. C'est ce qui est en train de se passer. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur décide qu'il va montrer à Jean le sens de ce qu'il voit. Alors, un mystère ainsi révélé ne doit pas être tenu secret, mais au contraire, publié. Le mystère caché pendant des siècles est maintenant manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations. Ce mystère dont Paul a eu connaissance n'a pas été manifesté dans les autres générations, comme il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors, j'ai lu des versets, ceux qui veulent étudier le passage, allez voir les versets, c'est nécessaire. Nous sommes maintenant les dispensateurs, c'est-à-dire les administrateurs, mais aussi les divulgateurs des mystères de Dieu. Pourtant, le mystère contient un élément surnaturel qui dépasse l'homme en dépit de la révélation. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que même si le Seigneur nous révèle en grande partie le sens, autrement dit, il est en train de dire qu'il y a un sens encore plus profond que celui-là, on le couvrira peut-être juste dans le ciel. Il dit qu'il dépasse l'homme en dépit de la révélation. Nous ne connaissons, selon les Écritures, qu'en partie. Il nous faudra l'éternité pour sonder les choses les plus profondes de Dieu. Paul est celui qui, par sa vocation même, fait le plus souvent usage du mot « mystère ». J'ai juste mis la liste, c'est important de regarder, chaque fois que les Écritures utilisent le mot « mystère », ils utilisent le mot « mystère » dans quel contexte? Ça nous dit les principaux mystères bibliques, selon le dictionnaire, les mystères du royaume des cieux. Quand on lit les évangiles, on arrive souvent avec ça. Les mystères du salut en Jésus-Christ, appelés aussi mystères de la piété, de la foi et de l'évangile. Il est vrai qu'il y avait un mystère. Comment veux-tu que les hommes comprennent qu'ils étaient perdus, s'en allant à l'enfer? Comment veux-tu qu'ils pouvaient prédire que Dieu, comment le moyen prendrait pour nous sauver, pour nous empêcher d'aller à l'enfer, puis pour nous donner le ciel? Après ça, le troisième mystère, le mystère de Dieu et de Christ en nous. Ça, imaginez-vous. Dieu, c'est pas un petit mystère, le mystère du Saint-Esprit puis de la régénération. Dieu vient nous habiter. c'est quelque chose que si les Écritures ne nous l'auraient pas dit, on ne peut pas comprendre ça. Dieu a voulu qu'on le comprenne. On est habité par le Saint-Esprit. Quatrième mystère, le mystère de l'Église, corps de Christ, composé de juifs et de païens, et l'épouse du Seigneur. Cinquièmement, le mystère de l'enlèvement de l'Église. Sixièmement, le mystère des sept étoiles qui contient les révélations transmises par Jean aux sept églises. Le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église. Le mystère de l'iniquité qui sera dévoilé par l'apparition de l'Antichrist. Et le mystère de Babylone la prostituée qu'on est en train d'étudier, qui est le mystère de Babylone la prostituée, c'est-à-dire de la fausse religion démasquée à la fin des temps. Le Seigneur, c'est ça qu'il est en train de nous faire. Il est en train de nous montrer de démasquer la grande prostituée, parce qu'il y en a beaucoup qui la voient comme étant le leader religieux du monde. Moi, je me souviens d'avoir une fois, à l'île d'Orléans, une femme qui était venue chez nous, puis on avait parlé de qu'il n'y a de salut en autre qu'en Jésus-Christ. Puis on avait parlé des dangers de l'écuménisme. Elle était fâchée après moi. Oh! Elle m'a fait une vraie crise, là. Après ça, après à peine de m'avoir téléphoné. Et là, vous conduisez les gens dans l'erreur. Il n'y a pas de quoi de plus merveilleux que ça, que tout réunir les hommes. Elle était complètement là, endormie, séduite, hypnotisée par l'idée de l'apostasie. OK, maintenant on tombe avec l'idée des sept têtes et des dix cornes. Là, ça, on rentre dans le côté intéressant. Premièrement, dans la Bible, le chiffre sacré 7 indique la perfection, la plénitude et l'achèvement ultime. En parlant de la bête, le chiffre signifie que la totalité de l'expression et de la manifestation des pouvoirs et des empires politiques terrestres de toutes les époques et de leur succession. Autrement dit, on parle de comment les forces politiques, historiquement, se sont manifestées et allaient toujours dans le même sens. Alors, l'expression et la manifestation des pouvoirs et des empires politiques terrestres. Alors, quand on va arriver au tableau, on va comprendre. Il y a eu la première expression, Nimrod avec la tour de Babel. Et après ça, il y a eu les expressions de différentes nations qui ont voulu reprendre l'idée à leur compte et qui ont essayé. Si vous regardez l'histoire de toutes les nations qu'on va vous mentionner, là, l'Égypte, la Syrie, ils ont tout essayé. Et des fois, ils sont allés loin, ils ont pris des grandes, grandes parties de l'Asie, de l'Europe. Mais il n'y a jamais personne qui a réussi. Même en 39-45, Hitler, c'était quoi son problème? Il voulait prendre le contrôle de toute la terre entière. Il a fait un grand bout, hein? La France, l'Angleterre n'a pas tombé, mais en tout cas, il a voulu. Fait que les nations n'ont jamais abandonné. Donc, les empires de ce monde pécheur et déchu cherchent à détrôner Dieu et à imposer une domination universelle absolue. C'est rien de nouveau sur le soleil, hey, ça, on recule de loin, on est rendu dans la Genèse. C'est un vieux rêve humain. L'être humain n'abandonnera pas, puis un qui n'abandonnera pas non plus, c'est Satan. Lui, il veut établir son royaume sur la terre, et là, il est en train de ramener l'esprit de Babel, qui va faire en sorte que la Bible dit qu'il va réussir pour une heure. Donc, à quelque part, ce qu'on est en train de voir se monter sous nos yeux, ça va arriver, mais ça va être de très courte durée. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il dit qu'il va intervenir à un moment donné. Moi, j'ai hâte de voir ça arriver. Donc, en résumé, les sept têtes, c'est la puissance dans son principe. Autrement dit, le principe de la volonté de l'homme de vouloir successivement au cours de l'histoire avec les différents empires, de vouloir prendre la domination globale politiquement. Facile à comprendre, c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. OK, après ça, on parle des dix cornes. Une corne dans les Écritures, c'est toujours été un symbole de puissance, un symbole de volonté. C'est comme là, on parle souvent des cornes. On utilise souvent l'image de la corne dans les Écritures pour parler de puissance, développement et réalisation ultime. Autrement dit, les sept têtes, c'est le principe d'avoir un gouvernement qui éventuellement prendra le contrôle total. L'autre, ben, c'est le développement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Depuis le début, ça fait 4000 ans. Ça a changé, mais c'est toujours la même chose. Maintenant, on va aller dans le verset 8 à 12. Donc, l'ange, il dit à Jean, je vais te l'expliquer, je vais te le montrer. Moi. Mais dans le verset 8 à 12, on va juste prendre les versets 8 et 9. Parce qu'il y a une expression, là, qui est très importante à saisir. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Si ça ne vous pose pas de difficulté dans votre compréhension, vous êtes vraiment bon. C'est ici l'intelligence que possède la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, on parlait qu'elle était assise sur une bête, elle est rendue assise sur des montagnes. Quelque part, si on prend ça littéralement, là, dans un sens littéral, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein? Il ne faut pas oublier que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Elle est assise sur des montagnes. Dans les Écritures, des montagnes, ça a souvent le sens d'un empire, d'un gouvernement, de quelque chose d'élevé. On le sait, une montagne, c'est solide, puis c'est élevé. Donc, les gouvernements, dans les Écritures, il y a beaucoup de passages, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où on nous parle des montagnes comme des gouvernements. Et là, il y a une expression que si on... Moi, j'avoue que je l'ai compris pour la première fois. Puis j'ai dit, waouh, là, c'est comme... L'expression, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ça a l'air tellement facile à comprendre. Hein? Que nous trouvons à la fin du verset 8, en parlant de la bête, peut nous mystifier et nous rendre perplexes. Moi, en tout cas, je ne sais pas si ça l'a fait, mais moi, ça m'a... Ça dit, car elle était, elle n'est plus, bien qu'elle soit. C'est quoi tu veux dire, là? Dans les Saintes Écritures, le mot « bête » est souvent utilisé au sens figuré, voulant signifier les empires et les dominations de nature politique. Reculons dans le livre de la... Tout à l'heure, je vous disais que bien comprendre un livre, ça implique qu'on a lu la même idée ailleurs, mais que c'est exprimé le sens. Daniel, chapitre 7, versets 16 et 17, versets 21 et versets 23. Dans Daniel 7, qu'est-ce qu'on parle? On parle qu'il va y avoir une bête, mais elle va ressembler à des empires, à des dominations. Donc, il utilise pour les bêtes, quatre bêtes. Quand vous lisez votre livre de Daniel, donc il parle d'une bête, un lion, l'autre un ours, l'autre un léopard, et celle de la fin, il ne dit pas quelle sorte de bête, il dit juste une bête terrible. Alors, on lit, versets 16 et 17, « Je m'approchai de l'un des assistants et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. » Il me parla et m'en donna l'interprétation. Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et verset 21, je regardai comment cette corne, voyez-vous la corne, on l'a ici, comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Donc, une corne qui fait. Donc, c'est une corne, c'est un symbole qu'a fait la guerre aux croyants. Prévaloir, ça veut dire gagner. C'est pour ça qu'on a vu dans les chapitres précédents. qu'il va gagner jusqu'à un certain point, mais ça ne sera pas pour longtemps. Et le verset 23, il me parla ainsi, la quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Intéressant. Dans le tableau, on ne rentrera pas dans le tableau cette semaine, là, mais je vais expliquer un petit peu comment Herman Oxema explique toutes les expressions qui sont dites « était, n'est plus, est encore » et le déroulement historique de l'ensemble des puissances qui ont passé sur la Terre. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on terminera tout cela la semaine prochaine.